Il n'y a pas que la santé qui n'a pas de prix, il y a aussi la culture, Zoé Sfez.
J'adore ce genre de transition, oui tout à fait, c'est vrai.
Et vous consacrez votre dossier du jour à l'inauguration ce week-end à Washington du Musée National de l'Histoire et de la Culture Afro-Américaine, avec un acronyme.
Un acronyme effectivement très compliqué, mais comme tout le monde va l'appeler comme ça, je vais essayer de l'appeler comme ça. Alors ce musée, c'est Barack Obama, premier président noir de l'histoire des États-Unis, qui l'a inauguré. Cet immense musée donc, qui est situé à Washington, la capitale, à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche. Nous ne sommes pas un fardeau ou une tâche pour l'Amérique, nous sommes l'Amérique, a-t-il dit dans ce discours extrêmement attendu. Inauguration en grande pompe avec moult concerts. Inauguration à la hauteur de ce projet de musée vieux de 100 ans. C'était d'anciens combattants noirs américains excédés par la discrimination qui avait créé en 1915 une commission des citoyens de couleur avec pour but de créer un monument qui célébrerait leur contribution à l'histoire américaine pour qu'elle soit reconnue. 100 ans plus tard, le projet voit enfin le jour. Il a sans cesse été repoussé, il a été très difficile à financer. Le Congrès américain n'a accepté d'investir dedans que très tardivement. Et il ouvre en pleine campagne présidentielle, en pleine tension raciale. Pour Nancy Berco, conservatrice, l'incapacité finalement, le fait que les États-Unis n'aient pas réussi à concevoir et ouvrir ce musée avant 2016, a clairement joué un rôle dans la situation actuelle.
There is no museum really that does what this museum does. And I think it was a really pretty profound absence.
Aucun musée ne fait ce que ce musée fait, et c'était un manque profond, terrible aux États-Unis et même d'un point de vue mondial. Ce qui m'a le plus frappé ce week-end, c'est cet échange avec un visiteur, un Afro-Américain de près de 70 ans. Nous lui avons demandé comment il trouvait le musée, et il a dit qu'il ressentait un grand calme. Je lui ai demandé, mais pourquoi un grand calme ? Il m'a répondu, j'ai porté cette histoire avec moi, ces événements, cette connaissance en moi, et tout cela était confiné en moi. Voir cette histoire enfin mise en perspective dans un musée national me soulage d'un énorme poids. Je pense que l'absence de ce musée nous a directement mené au climat de tension énorme que nous connaissons aujourd'hui. Et que nous, Américains, Noirs, Blancs, n'avons aucun moyen de comprendre le monde d'aujourd'hui parce que nous ne connaissons pas notre passé.
Alors le NMA, etc., hein, vous ferez l'acronyme
N-M-A-A-H-C,
à la fin.
N-M-A-A-H-C en anglais.
Vous êtes entraîné, beaucoup entraîné. Donc en tout cas, c'est un édifice aussi long que cet acronyme, aussi grand, 3 700 m², et il est divisé en 4 parties dans lesquelles on expose plus de 34 000 objets.
Exactement, alors l'institution a expliqué avoir mené un travail scientifique extrêmement pointu, évidemment, mais aussi une étude de marché, figurez-vous, très longue pour savoir comment aborder cette histoire, cette identité des Afro-Américains, couvrir à la fois tous les besoins et tous les publics. Il comprend donc une partie historique qui va des années 1500 à nos jours, qui revient notamment sur l'histoire de l'esclavage, celle de la ségrégation, celle du combat des droits civiques. Une seconde sur l'identité afro-américaine, censée rendre compte de, justement de sa diversité puisqu'elle n'est pas unique. Et enfin, une partie culture qui revisite un peu tous ces thèmes précédents. Le parcours est pensé pour être en fait visité à la carte et le principe c'est qu'il faut revenir plusieurs fois. Le but donc pour le NMAHC, c'est très difficile à dire, est de ne pas être tout simplement et uniquement le musée des Noirs américains, explique Nancy Berco.
Les principaux arguments des opposants à cette idée de musée d'histoire afro-américaine, c'était de dire qu'il ne raconterait qu'une seule histoire, celle des Afro-Américains. Donc nous avons essayé d'être très clairs, nous racontons l'histoire américaine à travers le prisme afro-américain. Et qu'on ne peut pas comprendre ce que veut dire être américain si on n'a pas vu ce musée. Dans la muséographie, nous nous adressons donc à tous les Américains, mais aussi à notre public international. Et les thèmes concernent absolument tous les aspects de la vie. Pour n'évoquer que l'exposition sur l'esclavage dont j'étais en charge, nous avons mené une réflexion pour qu'elle parle à tout le monde. D'une part, il faut garder en tête que c'est une histoire partagée, donc ce n'est pas difficile de la rendre universelle, mais surtout nous avons mis l'accent sur l'expérience humaine, sur le fait que des êtres humains ont subi cette expérience de l'enlèvement, de la vente, de la traversée de l'océan, et nous utilisons d'ailleurs la première personne pour que tout le monde puisse s'identifier.
Nancy Berco, alors effectivement, qui est conservatrice de ce musée, je précise que ce musée table sur plusieurs centaines de milliers de visiteurs d'ici la fin de l'année. Les brèves, donc on l'a dit, on l'ouvre avec la réouverture de la salle Pleyel ce vendredi, interdite de musique classique. Elle a opéré une énorme transformation. C'est le chanteur Benjamin Biolay, accompagné de 28 musiciens qu'il a inauguré. La programmation qui sera donc rock, époque, pop, bah, j'étais perdue, démarre clairement officiellement la semaine prochaine.
Un incendie au théâtre Mogador à Paris.
Un incendie d'origine inconnue qui s'est déclaré dans ce théâtre du 9e arrondissement, fondé en 1913. Le foyer a été maîtrisé, mais la salle de spectacle, notamment le plancher, serait très endommagée. La direction n'est pas en mesure de dire si elle maintient la première du spectacle Fantôme de l'Opéra qui doit avoir lieu le 13 octobre.
Et enfin, la Philharmonie a coûté 3 fois plus cher que prévu.
C'est ce qu'a indiqué la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France dans un rapport publié ce vendredi. Elle était évaluée à 173 millions d'euros, la Philharmonie de Paris, donc à côté de Pantin. Elle en a coûté 534 au final. La Cour qui souligne en fait que les choix de gestion de la ville de Paris, mais aussi les dérives de l'architecte Jean Nouvel, sont responsables de ce lourd dépassement.
Merci Zoé.